Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de l'étiquette féministe. Le sujet du jour est inspiré d'un article du journal La Presse qui s'intitule « La ministre de la condition féminine ne se dit pas féministe ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons ensemble un bref historique de l'émergence du féminisme qu'on retrouve sur la plateforme mccord-museum.qc.ca. Au Canada, les premiers groupes féministes s'organisent au 19e siècle autour de la Révolution industrielle. Toutefois, dans le cas du Québec, il faut attendre la formation du Montreal Local Council of Women en 1893 et la mise sur pied de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste en 1907 pour que le mouvement prenne véritablement son envol. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les principales revendications des femmes québécoises concernent l'éducation des jeunes filles, la situation juridique des femmes mariées, le travail des femmes, les politiques sociales, la santé et bien sûr le droit de vote. La lutte pour le droit de vote des femmes est le principal enjeu du féminisme québécois de la première moitié du 20e siècle. Les femmes qui revendiquent haut et fort ce droit développent deux argumentations. La première, soutenue par Marie Lacoste Gérin-Lavoie et la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, consiste à affirmer le rôle social traditionnel des mères et l'apport de l'instinct maternel à une nouvelle vision de la société. Cet apport s'est vu comme ne pouvant être que bénéfique à l'ensemble de la société et ne menaçant en rien l'ordre établi. Jouant la carte de la différence entre les hommes et les femmes, cette argumentation a donné lieu au concept du matérialisme. Voyez-vous, mesdames et messieurs, dans un premier temps, les femmes, et ça j'ai appris ça sur cette plateforme-là, n'ont pas défendu le droit à l'égalité. Non, non, ils ont défendu la différence entre les hommes et les femmes pour que les femmes puissent prendre une place. Et ça, c'est intéressant comme approche, mesdames et messieurs. Je poursuis. À l'opposé, la deuxième argumentation en faveur du droit de vote est développée par les féministes dites libérales telles que Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain. Pour elles, les hommes et les femmes sont semblables et doivent être aussi considérés comme égaux devant la loi et bénéficier des mêmes droits. Afin de mieux organiser la lutte, Thérèse Casgrain fonde en 1929 la Ligue des droits de la femme. Une fois par année, cette association se lie à l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec, dirigée par Idola Saint-Jean, afin d'organiser une marche vers le Parlement pour demander au gouvernement d'accorder le droit de vote aux femmes. Cependant, par leur participation à l'effort de guerre, les Québécoises prennent conscience de leur importance dans la société. Et là, il va se former une deuxième vague de féminisme. Deux grands objectifs marquent cette deuxième vague du féminisme, la quête de l'égalité entre les hommes et les femmes et la libération des femmes. Le mouvement s'oriente alors autour des trois pôles, le féminisme libéral, le féminisme marxiste et le féminisme radical. On va en reparler un petit peu plus tard de ces trois pôles, mesdames et messieurs. Les revendications maintenant. Après l'obtention du droit de vote en 1940 et la reconnaissance de la capacité civile des femmes mariées en 1964, qui permet aux femmes mariées de ne plus être considérées comme des mineures devant la loi, les revendications des féministes de la seconde moitié du 20e siècle évoluent. Les principaux enjeux sont le droit à l'avortement, l'ouverture de garderies publiques et, en milieu de travail, le droit à des congés de maternité rémunérés, l'équité salariale et la création de services sociaux pour les femmes. Toutefois, plusieurs combats d'hier demeurent d'actualité, par exemple la réussite scolaire des filles, l'accessibilité à l'éducation, l'accès aux métiers traditionnellement masculins et la lutte contre les stéréotypes et la discrimination. Les motifs ou les moyens utilisés. Pour obtenir des résultats concrets, les féministes misent sur la mobilisation et l'organisation. Différents groupes de femmes sont créés, une majorité d'entre eux font partie de la Fédération des femmes du Québec, une fédération indépendante créée en 1966 par Thérèse Casgrain. Si les féministes, marxistes et radicales organisent des manifestations et encouragent parfois la désobéissance civile, les féministes libérales préfèrent les campagnes médiatiques et le lobbying. Et ça, c'est un point très important, mesdames et messieurs, puis on va le voir pourquoi plus loin, parce que c'est l'approche de la ministre Thériault, cette approche qui est dite libérale. Ces dernières méthodes semblent porter leurs fruits puisque le gouvernement fédéral de Lester B. Pearson met sur pied la commission Byrd du nom de sa présidente, Florence Byrd, sur la place des femmes dans la société. Cette commission propose l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes et comme ses audiences sont télédiffusées, elle permet aux Canadiennes de prendre conscience de leur situation et de la justesse de leurs revendications. Sur la scène provinciale, le Conseil du statut de la femme est créé en 1973. Cet organisme vise à conseiller le gouvernement sur les questions concernant les Québécoises et à informer ces dernières de leurs droits. À partir de cette époque, la lutte féministe envahit la sphère politique. Plusieurs féministes choisissant de s'y faire entendre, certains sur la scène provinciale comme Marie-Claire Kirkland-Casgrain, première Québécoise élue députée en 1961 et première femme à siéger au Conseil des ministres, Lise Payette, première ministre de la condition féminine en 1979, ou Françoise David, porte-parole de Québec solidaire, d'autres sur la scène fédérale comme Viviane Barbeau, députée du Bloc québécois. Parallèlement, des groupes féministes contribuent à la défense des femmes et au développement d'une culture féminine par la production de recherches universitaires et la conquête du monde culturel. À partir des années 60, plusieurs femmes font leur marque dans les domaines de la musique, du cinéma, de la télévision et du théâtre. De plus, une presse et une littérature féministe se développent pour offrir de nouvelles voix aux femmes, que ce soit par le journal Québécoise Debout, la revue La Vie en Rose ou les éditions du Remue-Ménage. La situation actuelle. Aujourd'hui, le mouvement féministe est encore bien présent au Québec. Il défend les droits des femmes et combat les stéréotypes, particulièrement ceux véhiculés dans les médias et dans le monde du travail. Il doit toutefois composer avec un mouvement de balancier qui a vu se développer une idéologie qui considère le féminisme comme dépassé et nuisible. Maintenant qu'on a survolé l'histoire du féminisme, revenons à l'article de la presse qui dénonce la ministre de la Condition féminine de ne pas endosser l'étiquette féministe. C'est ce qu'on y apprenait. Lise Thériault, la ministre de la Condition féminine, refuse l'étiquette féministe. Son approche envers la cause des femmes se veut beaucoup plus pragmatique que théorique, plus terre-à-terre que militante, plus individuelle que collective. Pourquoi donc, mesdames et messieurs, se distance-t-elle de cette étiquette? Pourtant, comme le faisait remarquer Mathieu Charlebois dans son article publié sur la plateforme de l'actualité intitulé « Lise Thériault, le féminisme et le dictionnaire », il mentionne que le féministe est, selon le Robert, l'attitude de ceux qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes. Donc, pour répondre à la question préalable, pourquoi se distance-t-elle de cette étiquette? Eh bien, à mon avis, elle ose braver un concept qui dépasse la question de l'égalité homme-femme, puisqu'elle a confié à la presse canadienne qu'elle était beaucoup plus égalitaire que féministe. Plus loin dans l'article de la presse, elle déclare à mots couverts qu'elle prend une position pour un féminisme réformiste et se distance du féminisme marxiste et du féminisme radical. Pour bien vous situer, selon Louise Toupin, chargée de cours en études féministes, le féminisme libéral égalitaire, appelé aussi réformisme ou féministe des droits égaux, est en filiation directe avec l'esprit de la Révolution française, avec sa philosophie, le libéralisme, et avec son incarnation économique, le capitalisme, où la liberté individuelle et l'égalité seront deux de ses principaux axes de lutte. Les féministes libérales égalitaires ont donc réclamé pour les femmes depuis plus d'un siècle l'égalité des droits avec les hommes, égalité de l'accès à l'éducation, égalité dans le champ du travail en matière d'occupation et de salaire, égalité dans le champ des lois civiles, des lois criminelles et égalité politique. L'égalité complète permettrait aux femmes de participer pleinement à la société sur un pied d'égalité avec les hommes. De son côté, le féminisme marxiste se concentre sur la lutte contre l'oppression du capitalisme. Louise Toupin nous explique que selon elle, c'est l'organisation économique, le capitalisme, qui explique l'exploitation des deux sexes. L'oppression des femmes est née avec l'apparition de la propriété privée. L'ennemi principal n'est plus identifié aux préjugés ou aux lois injustes envers les femmes, comme le féminisme libéral, mais bien au système économique et à la division sexuée du travail qu'il a instauré. Aux hommes, la production sociale et le travail salarié. Aux femmes, le travail domestique et maternel gratuit à la maison, hors de la production sociale. Le patriarcat occupe donc une place secondaire dans l'explication de l'oppression des femmes, cette dernière étant liée aux formes de l'exploitation capitaliste du travail. Toujours selon Louise Toupin, le féminisme radical signifiait qu'on entendait remonter dans l'explication de la subordination des femmes à la racine du système patriarcal. Il s'agit d'un courant éclaté dont les composantes partagent cependant une conviction commune. L'oppression des femmes est fondamentale, irréductible à quelque autre oppression et traverse toutes les sociétés, les races et les classes. L'ennemi principal ne se situe ni dans les préjugés, ni dans les lois injustes, comme chez le féministe du courant libéral, ni dans le système capitaliste, comme chez les marxistes féministes. C'est le patriarcat qui explique la domination des femmes par les hommes. L'ennemi principal devient donc le pouvoir des hommes, les hommes comme classe sexuelle. L'expression première du patriarcat se manifeste par le contrôle du corps des femmes, notamment par le contrôle de la maternité et de la sexualité des femmes. Le lieu où le patriarcat s'exprime se situe d'abord dans la famille et dans tout le domaine de la reproduction, mais aussi dans toute la société et à tous les niveaux, politique, économique, juridique, de même que dans les représentations sociales. Le patriarcat constitue un véritable système social, un système social des sexes ayant créé deux cultures distinctes, la culture masculine dominante et la culture féminine dominée. Si on résume, le féminisme réformiste, c'est la lutte pour les droits individuels des femmes, qu'on retrouve dans le Parti libéral ou à la CAQ. Le féminisme marxiste, c'est la lutte contre les classes sociales. Donc, on retrouve cela chez Québec solidaire. Et le féminisme radical, c'est la lutte contre le patriarcat et l'empreinte des hommes sur la sexualité des femmes. Et ça, on le retrouve davantage au Parti québécois. Lise Thériault veut donc se distancer du féminisme marxiste et du féminisme radical. Aujourd'hui, pour une femme publique, ne pas vouloir porter l'étiquette féministe, c'est très mal vu. On a pu le constater par la tollée qu'a provoqué la déclaration de la ministre. Pourtant, selon l'article de la presse, elle croit à l'individu qui décide de prendre sa place. Quand elle parle de l'égalité entre hommes et femmes, elle pense surtout à réduire l'écart entre les hommes et les femmes au poste de commande, sa priorité pour les prochaines années. C'est ce que nous révélait la presse. Elle pense aussi, selon la presse, bien sûr, au pouvoir politique, mais pas à n'importe quel prix. L'idée d'imposer des quotas de candidatures féminines lui déplaît. Cela fausserait le jeu de la démocratie, selon elle. Chose intéressante, mesdames et messieurs, selon la presse, encore une fois, d'ici la fin du mandat, la ministre qui se dit en pleine forme après un congé de maladie de 3 mois entend présenter un plan d'action sur la prévention de la violence faite aux femmes et un autre pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Sa collègue vient à sa défense, abondant dans le même sens qu'elle. Mais chose surprenante, la journaliste Marie-France Bazot ose aller dans la même direction qu'elle, déclarant publiquement sur la plateforme du Huffington Post qu'elle n'est pas féministe, elle non plus. Reconnue pour être plus à gauche, elle va néanmoins se distancier de cette étiquette dans un article intitulé « Je ne suis pas féministe, moi non plus ». Voici ce qu'elle dit. Comme nous devrions tous et toutes l'être, je suis infiniment reconnaissante et redevable aux femmes qui se sont battues depuis des décennies pour que nous ayons des droits reconnus, celui d'être citoyenne à part entière, celui de voter. J'applaudis les militantes de la première heure, des féministes inspirantes comme Madeleine Parent et celles de la deuxième qui ont revendiqué l'égalité partout, le droit de contrôler et de jouir de son corps. Elle va dire plus loin, on bénit aussi Jeannette Bertrand, grande éducatrice populaire. Elle va ajouter que la religion est encore y compris une menace aux droits chèrement acquis des femmes. À première vue, elle a plus tendance à s'approcher du féminisme radical. Mais écoutez bien la suite. Oui, les plafonds de verre existent toujours dans le monde de la haute finance, des médias, de la politique et de la construction. Ici, elle défend donc le féminisme réformiste ou libéral, ainsi que le féminisme marxiste en disant « à 100% pour des quotas de femmes en politique, mais pas prête de m'y engager pour autant ». Elle va déplorer qu'il y a encore de nombreuses luttes à mener pour changer les choses, mais qu'elle n'en fera pas partie. Ailleurs, c'est tout simplement catastrophique. Je ne dis surtout pas que la lutte féministe n'a plus sa place au Québec, mais vous ne me verrez pas revendiquer au sein du mouvement féministe. Comme toutes les Québécoises, je profite des acquis du résultat des luttes du passé, même récent. J'essaie, dans mon éparpillement idéologique, de butiner dans le coffre à outils du féminisme quelques idées séduisantes. Elle va donc terminer en exprimant qu'elle va, sur une base individuelle, soutenir les bonnes causes pour le bien de la cause des femmes, écorchant au passage l'establishment féministe. Wow, Madame Papesse, je ne suis pas assez sérieuse pour votre mouvement? Je marcherai donc seul avec mes talons loin des pancartes et des hashtags revendicatifs. Mais un talon, ça se coince bien dans une porte. Vous voyez, tout comme Lise Thériault, Marie-France Bazot se distance de l'establishment féministe qui est vu comme étant trop syndicaliste dans son approche et en gros, elle nous dit qu'elle peut défendre le droit des femmes dans les trois camps sans porter l'étiquette. Selon vous, croyez-vous que le féminisme doit rajeunir et rafraîchir son image? Croyez-vous que le féminisme est trop empreint de fanatisme et manque de nuances? Selon vous, est-il devenu un mouvement qui a basculé contre les hommes? Eh bien, mesdames et messieurs, puisque l'émission tire à sa fin, si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!